Bonjour, ici David et bienvenue à la saison 3 de Quelle Histoire. J'espère que t'as la pêche. Ça me fait toujours plaisir de vous retrouver une fois de plus. Alors je t'explique le topo. Dans chaque épisode, je déroule le tapis rouge pour un ou une invitée qui se démarque de notre société. Mais avant tout, n'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager. Abonne-toi pour recevoir les notifications des nouveaux épisodes. Like parce que c'est un bon petit moment passé ensemble. Et partage parce que ça ne mange pas de pain. Aujourd'hui, je me pose avec une dame dont le début de vie n'a pour le moins été comment. D'origine haïtienne, éduquée à la québécoise dans une famille blanche dans le Québec profond. Tout au long de son enfance, elle subit des regards et des commentaires désobligeants. Aujourd'hui, c'est une femme d'affaires épanouie avec un regard pertinent sur notre société. Alors, je vous laisse découvrir qui est Natacha No La Montagne. Bonjour Natacha, comment vas-tu ?
Je vais bien, toi ?
Oui, très bien, très bien. Alors, on va aller direct dans le vif du sujet. On va commencer par un voyage dans les sentiers de ton enfance, ta jeunesse. En gros, qui est Natacha?
Natacha, c'est une jeune femme très colorée.
D'accord.
Avec énormément d'ambition, qui a toujours voulu avoir une voix pour les jeunes femmes de couleur comme elle. Donc, en gros, c'est vraiment Natacha. Vous allez nous entendre parler encore très longtemps.
Ok, elle vient d'où? Quelles sont ses origines?
Je suis née en Haïti.
D'accord.
Port-au-Prince, plus exactement, mais j'ai été adoptée par une famille québécoise. Puis dans tout le monde entier que j'aurais pu être adoptée, viennent de Rimouski. Alors, j'ai grandi dans le Bas-Saint-Laurent. J'ai été adoptée avec ma petite sœur. Donc, c'est vraiment ma sœur biologique. Alors, j'ai deux frères qui sont les enfants biologiques de mes parents. Donc, mes frères sont blancs, mes parents sont blancs, ma soeur, on est noire.
D'accord. Et comment as-tu vécu ton enfant, justement, étant une petite fille noire adoptée dans une famille de blancs?
Pour être honnête, ça a été très bien. Je pense que j'ai eu la chance d'avoir une famille qui m'ont donné énormément d'amour. Par contre, je pense que c'est le regard des autres qui font en sorte que tu te sens différent. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de personnes de couleur à Rimouski. Donc, il y a certaines personnes qui se permettent de dire des commentaires que je crois qu'ils ne sont pas appropriés. Demandent des questions parce que le fait que mes frères étaient blancs, qu'on est très proches en âge, le monde sont comme « ben là, vous êtes pas frères et sœurs, elle est noire, t'es blanc ». Puis pour moi, je trouvais que c'était des choses que ça se disait pas. Je pense que dans la vie, on doit apprendre à se poser des questions ou les demander discrètement à la personne sans la discriminer. Mais moi, c'est vraiment que j'ai trouvé difficile, c'est le monde ont trouvé que c'était différent, une famille reconstituée avec des personnes blanches, des personnes noires. Donc, souvent, j'avais des petits commentaires que je trouvais déplacés. Là.
Et est-ce que tu avais autant d'affinité avec tes frères blancs?
Non, ben c'est sûr et certain que je suis proche de mes frères. Par contre, c'est pas les mêmes liens. Ma soeur, c'est comme, c'est fusionnel. Ma soeur, je serais n'importe quoi pour elle. On est interconnectés, on est connectés comme ça se fait pas. Mes frères, oui, je suis proche, mais ils sont quand même loin. C'est quand même des gars, on parle pas des mêmes sujets. Mais quand j'étais avec mes frères, je suis contente de voir mes frères. Mais on a toujours eu quand même des bons liens familiaux. Dans toutes les familles, il y a des chicanes parfois, mais j'ai toujours eu du respect, beaucoup de respect pour mes frères.
Ok. Et as-tu essayé de retracer tes origines, de savoir qui sont tes parents biologiques?
Pour être honnête, pas vraiment, parce que c'était vraiment difficile pour moi. Moi, mon adoption est un sujet qui est très délicat. c'est difficile de savoir que tu connais pas tes racines, que tu as été adopté, tu as encore des frères et sœurs qui sont encore en Haïti, qui n'ont pas le même privilège que toi d'avoir une très belle vie. Donc, je me sentais coupable d'essayer de les recontacter pour leur dire quoi? Leur dire « Oui, moi, ça va. Oui, je mange 3 repas par jour. Oui, j'ai du succès dans ma carrière. Oui, j'ai été à l'école. » Je me sentais pas prête à affronter cette conversation. Mais aussi, il faut savoir que dans des pays pauvres, ils vont demander de l'argent. Donc, il faut que tu sois prêt à devenir une source financière pour eux. Donc, ça ne me tentait pas de commencer. Une fois que tu commences, pour le restant de ta vie, il faut que tu envoies de l'argent. Mais tout l'argent en Haïti est américain. Donc, c'est énormément d'argent. Donc, pour moi, ça ne m'interpellait pas de retrouver ma famille.
Te sens-tu noire avec une mentalité de blanche ou une blanche dans la peau d'une noire?
Je me sens une noire avec une mentalité de blanche parce que j'ai toujours été une femme qui voulait se battre contre l'injustice. Alors, contre l'injustice raciale, je l'ai vécu, c'était quoi le racisme? Je l'ai vécu, c'était quoi quand tu te sens diminué par rapport à ta couleur de peau, surtout en plus en étant une femme noire. Donc, je pourrais jamais m'identifier comme une femme blanche avec une mentalité de noire. Je m'identifie vraiment comme une femme noire. Par contre, j'ai une culture québécoise en moi. Je crois réellement que j'ai été choisie, qu'on m'a adoptée pour changer les choses. Donc, j'ai une voix, j'ai la possibilité de faire avancer des choses pour d'autres femmes noires dans la même situation que moi. Parce que je crois pas que c'est un combat, je crois que c'est une opportunité pour moi parce que ça me rend différente. Puis en étant différente, ça me permet d'avoir du succès soit dans mon entreprise, dans ma vie. Donc maintenant, j'embrasse cette différence-là. Puis j'en prends avantage pour vraiment représenter plein d'autres jeunes femmes de couleur.
Et penses-tu que c'est un atout d'être noire avec une mentalité de blanche ou l'inverse?
Oui, ça a un atout, surtout parce que je crois, surtout sans discrimination, mon accent. Donc, quand t'appelles, le monde ne peut pas te discriminer parce qu'ils pensent pas que tu viens d'une autre place. Parce que je l'ai vécu avec un de mes anciens copains qui est haïtien. On appelait pour des logements. Puis à chaque fois que lui qui appelait, les logements étaient toujours occupés. Mais lorsque c'était moi qui rappelais, on pouvait avoir une visite. Donc, je pense que ça m'a avantagée. Parce qu'en plus d'être exotique, j'ai ce côté de culture québécoise. Donc, oui, je suis quand même privilégiée dans les deux côtés.
D'accord. Et quel conseil donnerais-tu à un enfant adopté qui a du mal à se canaliser à cause justement du fait qu'il ou qu'elle soit adoptée?
De parler, il y a des groupes, d'essayer de s'exprimer avec ses émotions, de laisser sortir aussi ses émotions, mais de rencontrer des professionnels si on a de la difficulté à comprendre d'où qu'on vient, qu'on se sent incompris. Ces personnes-là ne sont pas seules. Il y a d'autres personnes qui sont adoptées, mais si on n'en parle pas, on ne peut pas aller chercher l'aide qu'on a besoin.
Et penses-tu, toi, en tant que personne, t'as bien vécu ton adoption?
Non, je ne l'ai pas bien vécu. C'était extrêmement difficile, surtout parce que les commentaires des gens, les gens sont comme soit des commentaires que tu peux pas aimer une personne adoptée autant que si c'est ton enfant biologique. Je crois que c'est du monde ignorant. Je crois que c'est du monde qui ne savent pas c'est quoi. Si tu peux pas avoir des enfants, est-ce que tu vas arrêter ton désir d'avoir une famille ou tu vas peut-être te tourner vers l'adoption? Mais je crois aussi que c'est une grande preuve d'amour d'adopter. C'est que tu es capable d'aimer un enfant autre que ton enfant biologique. Donc moi, je crois que ce que j'ai trouvé difficile, c'est les préjugés des gens par rapport à l'adoption, par rapport que la différence culturelle, la couleur. Alors non, ça a été difficile. Avec l'aide de professionnels, j'ai consulté énormément pour passer à travers certaines blessures de jeunesse que j'avais, puis là, ça va super bien.
Où étais-tu quand on t'a volé le manteau que tu avais créé pour la semaine de la mode de Montréal? Avant que tu répondes, je veux juste mettre les gens en contexte. La semaine de mode de Montréal rassemble plus d'une centaine d'acteurs de l'industrie de la mode locale qui présentent plusieurs événements aux quatre coins de la ville de Montréal. Donc, où étais-tu? Ça s'est passé en quelle année? Et que s'est-il passé?
En quelle année? Je ne suis pas très bonne dans les dates, mais je peux vous dire
t'avais
que ça fait très longtemps. On va dire que j'avais environ 20 ans, alors ça doit faire au moins un 13 ans de ça. Et j'étais au campus Notre-Dame de Foy et j'avais déposé mon manteau dans un casier. Tout mon outfit y était terminé et quand j'ai été pour juste, je sais pas, aller chercher quelque chose, j'ai réalisé que je m'avais fait voler ma création, la création clé pour le défilé. Donc, je peux vous dire que j'étais extrêmement anéantie après autant d'heures de travail.
Et c'était à combien de temps avant le défilé?
C'était environ une semaine avant le défilé, mais c'est deux semaines ou une semaine et demie, quelque chose comme ça, mais c'est juste parce que je devais aller en voyage étudiant à Miami, donc ils prenaient la semaine. Alors, on avait une date pour aller envoyer nos vêtements avant, sinon on ne pouvait pas participer. J'ai préféré aller à Miami que de me concentrer une semaine pour faire ce manteau-là. C'était un très bon choix. Quand t'as 20 ans.
D'accord.
Mais aujourd'hui, je sais pas.
Et que s'est-il passé justement après qu'on te l'a volé? Qu'est-ce que t'as fait pour...
Ça a été extrêmement difficile. Je pleurais et je pensais que ma vie était finie. Mon frère m'a envoyé un message. Mon frère Frédéric, il est extrêmement bon, je pense, pour quand on est dans des états... des états extrêmes, il prend les bons mots.
Okay.
Donc, il m'a rassuré, il m'a dit que j'avais toujours cru en moi, que si cet événement-là n'était pas arrivé, est-ce que j'aurais pas continué à croire en moi, quelque chose comme ça. Puis, il avait raison, il dit, tu sais que tu es capable, il faut pas que tu sois... anéanti pour ça, relève-toi, je sais que tu es capable. Donc,
est-ce que tu l'as refait le manteau?
Oui, je l'ai refait un peu tout croche, là, mais oui, je l'ai refait.
Mais ça a passé?
Ça l'a passé, mais pas pour moi.
C'était plus pareil.
Non, parce que je suis extrêmement dure sur moi-même, j'aime la perfection. Et c'était loin d'être parfait, j'étais déçue. J'avais honte de moi, je me compare beaucoup. Je suis une personne qui devrait parfois juste être fière de moi et c'est difficile.
D'accord. Et est-ce que tu as pu te représenter une année plus tard ou plusieurs
non,
années plus tard?
Non, j'ai pas réessayé le concours. C'est extrêmement difficile de gagner ces concours-là, mais quand tu as du talent, je m'y attendais. J'ai participé, ça fait partie d'une histoire que je vais pouvoir raconter à mes enfants derrière mon succès d'entrepreneur.
Ah ben c'est très bien. C'est très bien. film préféré de tous les temps et pourquoi?
J'adore énormément les films de Mafioso. Je sais pas, les Italiens, leur accent de tueur, je sais pas. Je trouve qu'il y a une...
C'est un accent macho, voilà.
Ah, de sensualité derrière. Un Italien me parle, peu importe ce qu'il dit, je suis comme... Oh yes. Mon Dieu! Alors, Le Parrain ont été des films cultes pour moi. J'ai adoré, je sais pas, l'histoire de la famille, l'histoire... Je sais pas, j'aime les films criminels. C'est un film que je pourrais écouter, réécouter. J'adore tous les films avec juste Al Pacino, Robert De Niro. Je pourrais réécouter ces films-là en répétition tellement que je suis une femme.
T'es dans une vie, t'étais, tu faisais partie
de la moi, si j'avais pas la possibilité d'aller en prison, je serais une criminelle. Mais je me vois pas passer le reste de ma vie en prison, ça fait que non.
Et quelle est ta chanson préférée de tous les temps et pourquoi?
J'adore beaucoup la chanson de Mariah Carey, My All, parce que c'est une chanson très, très, très romantique. Puis je pense que je me vois à travers cette chanson-là que parfois je me donne beaucoup trop dans une relation. Puis je devrais un peu moins me donner et juste donner la chance à l'autre personne de me conquérir, mais en vieillissant,
t'apprends
à être plus sage.
À te laisser aller, quoi. D'accord.
I am thinking of you in my sleepless solitude tonight. If it's wrong to love you, then my heart just won't let me. I'm drowned in you and I won't pull through without you by my side. I'd give my all to have just one more night with you. I'd risk my life.
L'entretien par amour. Irais-tu au bout du monde par amour?
Non. Non. J'aime trop ma famille. Déjà ici à Gatineau, je m'ennuie énormément qu'être à l'autre bout du monde. Si j'ai un jet privé qui peut me faire traverser le monde entier pour aller voir ma famille quand que je veux les voir, je déménagerais à temps partiel, mais pas à temps plein.
Donc, si le mec il veut te faire déménager au bout du monde, il faut qu'il te prépare un jet, c'est ça?
Il est mieux d'avoir un jet qu'un budget pour me faire voyager à chaque fois que je veux y aller ou que ma famille aille une maison ou une chambre dans notre maison pour venir nous visiter la moitié du temps de l'année. C'est non négociable.
D'accord. Mentirais-tu par amour?
Ça dépend de la gravité d'un mensonge. Ça dépend toujours parce que si c'est un mensonge qui va me mettre dans beaucoup de problèmes, je l'ai déjà fait dans le passé, plus jamais.
D'accord.
La personne n'en vaut pas la peine. Il faut assumer, avoir sa propre responsabilité pour les actes que l'on fait. Donc,
non.
Ça dépend.
Ouais.
Oui.
Ça dépend de la taille du mensonge.
Oui.
Enfin, du problème. D'accord. Ferais-tu un régime par amour?
Je pense que je suis déjà assez fit. Non, je n'ai pas besoin de régime.
D'accord. Mais si tu tombes sur un mec qui dit... on parle de régime et il faudrait que tu prennes un peu plus de poids. Parce que j'aime bien les femmes un peu potelées.
Non.
Que tu te laisseras aller pour...
Je pense qu'on est des milliards sur la planète. Puis si je suis pas assez bien pour lui quand il me voit, mais il peut aller m'en choisir une autre.
Tomberais-tu amoureuse de ses défauts par amour?
Ses défauts, ça dépend lesquels. Il y a certains défauts que c'est sûr que ça fait partie du charme de la personne avec qui tu es en relation. Mm-hmm. Mais il y a certains défauts que je crois qui sont inacceptables. Donc, sinon, je ne tomberais pas en amour avec un homme qui est irrespectueux, un homme qui est narcissique, puis un homme qui manque de constance, non. Donc, il y a des certains défauts. Si l'homme, il se laisse traîner un peu, oui, je tomberai en amour, ça ne me dérange pas.
D'accord. Apprendrais-tu une nouvelle langue par amour?
Ben, la langue, si c'est le français de la France, oui. Si c'est l'anglais britannique, oui.
Le russe, par exemple?
Non! J'ai sorti avec un russe, puis je vous le dis déjà, non! Non!
Tatouerais-tu son nom par amour?
Ça dépend combien qu'il me paierait. Par amour, je pense que j'aime pas assez personne pour me faire tatouer son nom pour le reste de ma vie. Tu ne sais jamais dans la vie qu'est-ce qui va se passer. Je serais prête à tatouer mon nom parce que je m'aime beaucoup. Oui, je m'aime vraiment beaucoup. Et je serais prête à tatouer le nom de mes enfants le jour où je vais en avoir, mais le nom d'un homme, je crois que c'est pas nécessaire. Et je me dis, tu peux symboliser ton amour d'une autre manière sans le tatouer sur ton corps.
D'accord. Parle-nous un peu de Natacha, de ce que tu fais. Quel est ton emploi? Qu'est-ce que tu fais? Je sais, on est ici, on est dans là où tu travailles. Parle-nous de Natacha ou Natcha Studio Beauté.
C'est drôle parce que Natcha, c'est mon père qui m'a trouvé le nom quand j'étais plus jeune. Mon père, il avait dit, « Ah, Natcha, ça serait un beau nom pour toi un jour pour si tu te pars une collection. » J'ai toujours été une femme très, très, très artistique. J'ai toujours voulu être différente. En ce moment, je me spécialise plus en microblading, maquillage permanent et la micropigmentation capillaire. Par contre, j'ai énormément de responsabilités, donc j'essaie de faire beaucoup de gestion. Alors, je gère beaucoup d'employés dans la clinique ici à Gatineau, mais dans les autres cliniques qu'on a avec mon associé. Alors, je suis une gestionnaire entrepreneur qui spécialise dans maquillage permanent.
Ok, donc tu as un studio ici et tu en as d'autres ailleurs,
c'est ça? Oui, mais c'est vraiment une compagnie complètement différente. Donc, d'accord. C'est une compagnie de fonte de gras par le froid. Mm-hmm. On en a une à Brossard, une à Trois-Rivières, une à Sherbrooke et j'en ai implanté une ici dans mon salon.
D'accord.
J'en ai quatre.
D'accord. Et donc, c'est vraiment un studio de beauté pour les femmes, pour
les hommes aussi.
D'accord. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les femmes? Tu as parlé de microblading, je pense que c'est ça. Et puis, qu'est-ce que vous faites ici pour les femmes?
C'est tellement vaste parce que qu'est-ce qui est merveilleux, c'est que j'ai une équipe de femmes qui ont toutes un talent différent. Donc, Janelle est beaucoup dans les extensions de style, la madérothérapie, c'est notre technicienne en fonte de gras par la froid du co-shipping. On a Amy qui est incroyable pour accueillir les clientes, faire du tatouage et parler beaucoup aussi.
Mm-hmm. On fait du tatouage ici?
Oui, on d'accord. fait du tatouage corporel. C'est Amy qui le fait, énormément de talent.
D'accord.
On a la belle Geneviève Lunatique qui reprend les clientes du microblading, qui fait aussi les extensions de cils. Et on a Mélanie qui est la coiffeuse, mais qui est indépendante. Mais Mélanie est un talent incroyable en coiffeur. Et moi, en ce moment, on a un petit peu plus de la misère en esthétique. Donc là, je m'occupe de faire la clientèle de l'esthétique, le temps de trouver une nouvelle esthéticienne. Mais on offre tout ce qui est pédicure, manicure, les faciales. Vraiment, on englobe énormément tout ce que l'esthétique.
Ok, et peux-tu choisir un chiffre entre 1 et 10?
Oui.
Vas-y.
7.
Où te vois-tu dans 7 ans?
Dans 7 ans, pour certaines personnes, je vais sonner condescendante, mais j'ai toujours dit qu'à 40 ans, j'allais être millionnaire. Mmh. Donc, je me vois une femme établie, mais... Je veux juste mettre une parenthèse, je ne cherche pas à être riche pour juste... Pour moi, être riche, c'est pas un accomplissement pour avoir plus de choses de matériel. C'est la richesse permet un pouvoir. Et avec ce pouvoir, j'aimerais vraiment créer une fondation. Une fondation pour les jeunes femmes de couleur pour avoir des fonds pour s'aider à partir en entreprise. C'est extrêmement dur de se partir en entreprise. Donc, j'aimerais être capable de financer des projets de jeunes femmes. J'aimerais être capable de soutenir certaines personnes qui ont des difficultés, que ce soit à payer leur loyer, à finir leurs études. Donc, pour moi, c'est très, très important. Et aussi, j'aimerais être une voix d'inspiration pour toutes les femmes. Et avec l'argent, tu peux faire avancer beaucoup plus de choses. Donc, c'est pour ça mon désir d'avoir beaucoup d'argent. Et j'aimerais avoir des enfants, avoir un conjoint qui m'aime et être en très bonne santé et profiter de la vie.
Penses-tu que ton désir de persévérance est un peu un désir qui vient de cette revanche que tu veux avoir sur la vie?
Je pense que mon désir, c'est le fait d'avoir eu ce privilège d'être adoptée. J'ai un privilège que la vie m'a donné d'être adoptée. Donc, je ne suis pas une personne qui va rester à me plaindre chez moi, à me dire « Oh, pauvre moi, tel projet ne marche plus, pauvre moi, ça ne marche pas. » Je me dis « Je peux changer le monde. » Pas du jour au lendemain, un jour à la fois. Mais j'ai cette chance d'avoir une voix. Donc, pour moi, j'ai ce désir de réussite pour montrer à mes parents qui sont décédés, comme « Regardez, vous avez fait le bon choix. » Je vais être une personne qui va changer les choses. Je vais être une personne reconnue. Je vais être une personne qui va avoir du succès. Et je veux qu'on voit les femmes de couleur de notre manière. Je veux qu'on voit les femmes de couleur qui réussissent. Je trouve qu'ici au Québec, on ne met pas assez de l'avant des femmes qui soient entrepreneurs, mais qui soient dans des hauts postes. Mais des femmes de couleur, j'en vois pas assez.
Natacha.
Oui.
Merci.
De rien.
C'est fini. Ouais, c'est fini. Merci à tous et à toutes d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Merci à Natacha. ALP. Abonne-toi, like et partage. Je répète, abonne-toi, like et partage. Lâche-moi 5 étoiles si tu es sur Apple Music ou un commentaire si tu utilises des plateformes telles que Spotify, Google Podcast et autres. Tout cela permettra de donner plus de visibilité au podcast, donc je compte énormément sur toi. Suis-moi sur ma page Instagram et Facebook à quellehistoire.podcast. N'hésite pas à m'écrire par mail à quellehistoire.podcast@gmail.com. À chacun son histoire, mais quelle histoire! À toi de le découvrir dans le prochain épisode. Ciao, ciao!